RFI, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 22h à Paris, minuit à Damas.
Mathis Limano.
Visite surprise aujourd'hui dans la capitale syrienne du chef de la diplomatie ukrainienne. Andriy Sybiga a rencontré le nouvel homme fort du pays. Objectif pour Kiev, éliminer la présence russe en Syrie. Le jeu d'équilibriste pour Ahmad al-Sharrey qui a déjà assuré ne pas vouloir expulser les forces russes. Lors d'un entretien hier à la chaîne saoudienne Al Arabiya, il a estimé qu'il faudrait 4 ans pour organiser des élections en Syrie. Visite aussi d'une délégation turque. Le ministre turc de l'énergie à Damas depuis plusieurs jours. Un déplacement pas désintéressé, Ankara veut aider la Syrie à rétablir l'accès aux services énergétiques. À la une également, l'électricité rétablie dans tous les foyers à Mayotte d'ici fin janvier. Promesse de François Bayrou, le Premier ministre en déplacement aujourd'hui avec plusieurs membres de son gouvernement. Il a aussi garanti que l'archipel sera reconstruite en 2 ans. Des annonces qui ont convaincu, selon François Bayrou. Il est maintenant en route pour la Réunion. En Syrie, la préparation d'élections pourrait prendre jusqu'à 4 ans. Déclaration hier du nouveau dirigeant syrien lors d'une interview, Ahmad al-Sharrey, qui a reçu aujourd'hui une visite surprise à Damas. Le chef de la diplomatie ukrainienne, Andriy Sybiga. Ce dernier n'a pas caché l'ambition de l'Ukraine après la chute de Bachar el-Assad, éliminer la présence russe dans le pays. Daniel Valo, pas sûr cependant que les nouvelles autorités syriennes l'entendent de cette oreille.
L'Ukraine a rompu toute relation diplomatique avec la Syrie en 2022 après la reconnaissance par Damas de l'annexion de la Crimée par la Russie. Mais avec le renversement de Bachar al-Assad, la diplomatie ukrainienne a bien l'intention de renouer avec la Syrie. Principal message apporté par Andriy Sybiga, le chef de la diplomatie ukrainienne, les nouvelles autorités se doivent de tourner le dos à la Russie.
Le régime russe et le régime de Bachar al-Assad se sont soutenus mutuellement parce qu'ils étaient fondés sur la violence et la torture. Et nous sommes convaincus que l'élimination de la présence russe en Syrie contribuera à la stabilité non seulement de l'État syrien, mais aussi de l'ensemble du Moyen-Orient et de l'Afrique.
Cet argument très géopolitique suffira-t-il à convaincre le nouvel homme fort de Syrie ? Rien n'est moins sûr. La Russie est un pays important, a ainsi déclaré ce dimanche Abu Mohammad al-Julani, qui pointe les liens noués dans les secteurs de la défense et de l'énergie. Pour convaincre la nouvelle Syrie de rompre au plus vite avec Moscou, l'Ukraine a cependant un argument de poids. Kiev pourrait en effet apporter à la Syrie les céréales que la Russie fournissait au régime de Bachar el-Assad. La visite du chef de la diplomatie ukrainienne à Damas a d'ailleurs coïncider avec l'annonce par Volodymyr Zelensky d'une aide alimentaire de 500 tonnes de farine de blé qui devrait arriver ce mardi en Syrie.
Aide alimentaire de l'Ukraine donc et aide énergétique proposée par la Turquie. Une délégation du ministère turc de l'énergie se trouve en Syrie depuis samedi et ce pour aider les nouvelles autorités de Damas à rétablir l'accès aux services énergétiques. En toile de fond, Claire Fage, des enjeux pétroliers et gaziers pour Ankara.
Nous devons rapidement fournir de l'électricité aux régions de Syrie qui en sont privées, a déclaré depuis Ankara le ministre turc de l'énergie. La Turquie exporte déjà du courant vers le nord de la Syrie où le réseau électrique détruit à 50% est asphyxié depuis la chute de Bachar al-Assad. Les tankers iraniens ne livrent plus la centrale thermique de Banias. Quant aux quelques milliers de barils par jour encore produits en Syrie, ils sont toujours sous contrôle kurde et américain. Le ministre turc de l'énergie a donc proposé à la Syrie de la accordé à l'oléoduc entre l'Irak et la rive turque de la Méditerranée. Il a aussi déterré un méga projet du début des années 2000 consistant à transporter du gaz depuis le Qatar vers la Turquie et l'Europe via la Syrie. Mais la Turquie ne se contente pas de redessiner la carte terrestre des infrastructures énergétiques. Nous allons conclure un accord de souveraineté maritime avec l'administration syrienne, a annoncé le ministre turc des Transports lundi dernier. De quoi inquiéter Chypre et la Grèce, riveraines d'une Méditerranée orientale très riche en hydrocarbures.
Avant de quitter Mayotte pour la Réunion, François Bayrou a annoncé une batterie de mesures plus de 2 semaines après le passage du cyclone. Le Premier ministre français promet le retour de l'électricité dans tous les foyers d'ici fin janvier, le rétablissement de la production d'eau à son niveau d'avant-cyclone. Quant au bidonville, François Bayrou veut empêcher toute nouvelle construction. Plus tôt dans la journée, il a arpenté le territoire accompagné de plusieurs ministres, une usine de dessalement d'eau, l'hôpital de campagne installé après le cyclone, ainsi qu'un collège de Mamoudzou. Le CPE de l'établissement Antoine Piacenza s'est montré inquiet face aux annonces, notamment la rentrée des élèves décalée au 20 janvier. janvier, soit une semaine plus tard. Or, tous les établissements ne pourront pas rouvrir en même temps. Certains ont subi trop de dégâts.
En fait, maintenant, ce qu'on attend, c'est des actes. Et les actes, depuis deux semaines, ils n'ont pas été mis en place. La rentrée, honnêtement, je pense que ça va être compliqué. Parce que nous, ça fait deux semaines qu'on est sur place, qu'on n'a pas du tout été soutenus. Donc même moi, comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis très fatigué, etc. Et c'est, je pense, un ressenti qui est un peu partagé de toutes les personnes qui ont été sur le pont depuis deux semaines. Enfin, moi, je trouve quand même qu'il y a globalement, on a des élèves qui sont très demandeurs de l'école, parce qu'ils savent que c'est une des portes de sortie pour sortir de cette précarité. Donc oui, c'est important que les élèves reprennent l'école. Après, là où, en fait, les questions qui vont se poser, c'est que vu que toutes les écoles vont pas pouvoir réouvrir en même temps, il y a une question d'égalité qui va se poser. Mais c'est, est-ce qu'on ouvre que quelques écoles et on laisse certains élèves délaissés? Ou est-ce qu'on attend de rouvrir toutes les écoles en même temps? Mais c'est sûr qu'il va falloir se dépêcher de les réouvrir, ces écoles, parce qu'on a des enfants qui sont demandeurs. Moi, ce qui m'a choqué le plus, c'est que juste après Chido, j'ai croisé plein d'élèves à moi, et les premières choses qu'ils m'ont dit, c'est « Monsieur, on a perdu nos cahiers, comment on va faire pour la rentrée ?»
Un témoignage recueilli au micro RFI de Lola Fourmi. Les premiers résultats de l'enquête dans l'attaque de la voiture, à la voiture Bélier en Allemagne. L'auteur présumé présente des signes de troubles psychiatriques. C'est ce qui ressort de l'interrogatoire et de ses déclarations faites sur Internet. Depuis le 20 décembre, l'Allemagne s'interroge sur les raisons qui ont poussé Taleb Jawad al-Abdul Mohsen à faucher la foule du marché de Noël de Magdebourg avec sa voiture. L'attaque a fait 5 morts et plus de 200 blessés. L'OMS redemande à Pékin de partager ses informations sur le Covid-19. Sans transparence, le monde ne peut pas se préparer à de futures pandémies, insiste l'Organisation mondiale de la santé. La Chine est critiquée pour faire de l'obstruction quant à ses données, 5 ans après le début de la pandémie de Covid-19. Direction la bourse de Wall Street. Dans ce journal, 2024 aura été marqué par une année record tirée par la bonne santé du secteur de la tech. Les marchés américains ont surperformé, veuillez m'excuser, face à des marchés européens moroses. L'indice Eurostock a progressé de 10% cette année contre 28% pour l'indice large de Wall Street, le S&P 500, et l'écart ne cesse de se creuser entre les deux côtés de l'Atlantique. Les raisons sont multiples, Anne Verdaguer.
C'est une tendance de fond depuis la crise financière de 2008. Wall Street caracole en tête en termes d'attractivité et de valorisation boursière. La première explication est le contexte macroéconomique. Les États-Unis dépassent largement le vieux continent, que ce soit en termes de croissance, de productivité ou d'innovation, et cela depuis des années. D'un point de vue politique aussi, face à une Amérique pragmatique, au capitalisme débridé, l'Europe fait pâle figure pour les investisseurs, même si les garde-fous en termes de concurrence permettent de se prémunir de certaines situations de monopole. Mais les résultats sont là. Les actions des 7 magnifiques de la Bourse de New York, qui regroupent Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Tesla, Nvidia et Alphabet, ont bondi de plus de 65% en 2024, contre une hausse moyenne d'un peu plus de 6% pour les 7 plus grosses capitalisations boursières en Europe, qui comptent notamment le danois Novo Nordisk et le français LVMH. La très belle performance des entreprises de la tech américaine est portée par tout un écosystème autour de l'intelligence artificielle, dont l'essor n'en est qu'à ses début.
Au Pérou et en Équateur, une houle d'une violence inhabituelle frappe les côtes depuis plusieurs jours. Selon les autorités péruviennes, des vagues de plus de 4 mètres de haut ont fait au moins un mort et entraîné la fermeture de la plupart des ports du pays. D'après Fabrice Ardouin, chercheur au laboratoire d'océanographie du CNRS et joint par Igor Strauss, cette houle est la conséquence d'une tempête venant du Pacifique Nord à des milliers de kilomètres du Pérou.
Dans le Pacifique Nord, vous avez un rail de tempête qui va en gros du Japon jusqu'à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Donc les tempêtes se développent en général sur cet axe-là. Et donc là, c'est le cas. Hein. Donc c'est intensifié entre le 20 et le 22. Et en termes de hauteur de vague, ça a dépassé les 15 mètres, c'est sûr. Quand on a des vagues de 17 mètres, hein, ce qui se passe, c'est qu'en même temps, on a forcément aussi des très grandes périodes. Et cette période, par contre, elle va rester la même lors de la propagation. Donc des vagues qui vont faire 20 secondes dans la tempête, elles vont arriver au Pérou avec la même période de 20 secondes. En fait, il y a pas mal de paramètres qui vont intervenir sur définir la hauteur de la houle à la côte, en particulier la période, la direction et la hauteur au large. Et il suffit de tirer les mauvais numéros dans le bon ordre et effectivement, ça peut faire beaucoup de dégâts, quoi. Mais ouais, donc effectivement, c'est un phénomène météo entre guillemets classique qui arrive rarement dans n'importe quel endroit du monde, mais globalement, pour l'ensemble du globe, des houles comme ça, on en a plusieurs par an, quoi.
C'était Fabrice Ardouin, chercheur au laboratoire d'océanographie du CNRS, au téléphone de Igor Strauss. RFI, il est presque 22h10 à Paris, 21h10 en temps universel. Merci à vous d'avoir suivi ce journal.